Bienvenue à tous dans After Coupe du Monde. Aujourd'hui, After Coupe du Monde sur l'Iran, un pays qui est actuellement en guerre, pour qui le foot est certainement secondaire. On va essayer de répondre à toutes les questions qui entourent la présence de l'Iran aux États-Unis lors de cette Coupe du Monde. C'est parti pour After Coupe du Monde.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.
François Pinet.
After Coupe du Monde, vous le savez, à retrouver en podcast sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes d'écoute. Également à regarder sur YouTube et sur After Foot Télé, les 48 équipes décryptées sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet prochain. Et pour parler de l'Iran, très heureux d'accueillir Arman Samadi du média Team Méli Actu. Bonjour Arman.
Bonjour François.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Team Méli Actu, je le précise, l'actu de tout le football iranien, de tous les joueurs iraniens, retrouvés sur X et sur Instagram, hein, c'est ça ?
Oui, exactement.
Voilà. Merci d'être avec nous en tout cas pour parler de la préparation de cette équipe iranienne, des forces et des faiblesses de l'équipe, du sélectionneur, des joueurs à suivre. On va en parler bien sûr. On va parler aussi bien sûr politique dans ce podcast avec Nicolas Pelletier qui suit cette actualité pour RMC Sport. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Alors, on va parler de cette équipe d'Iran qui se retrouve dans le groupe G avec la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Voilà un groupe, on parlera sur le plan sportif des possibilités de l'Iran dans ce podcast. Un mot aussi de ce programme parce que c'est ça qui est intéressant pour nous. Le 16 juin, ça sera à Los Angeles, le Iran-Nouvelle-Zélande. Le 21 juin, contre la Belgique à Los Angeles également. Et puis le 27 juin, Égypte-Iran à Seattle. Pourquoi c'est important d'en parler ? Parce que les trois matchs auront lieu sur le territoire américain. Mais le camp de base de la sélection qui au départ devait être aux États-Unis eh bien, a changé récemment, Nicolas. Désormais, les Iraniens vont être basés au Mexique.
Oui, ils seront à Tijuana pendant au moins trois semaines de compétition pour la phase de groupe. On l'a appris il y a quelques jours. La FIFA a officialisé cette demande qui a été réalisée par la Fédération iranienne de football de ne pas être présent au Mexique parce que dans un premier temps, la Fédération iranienne de football voulait ne pas jouer ses matchs sur le sol américain et voulait les jouer au Mexique. La FIFA a refusé. Donc, il y a eu un compromis entre les deux parties. Les matchs se joueront aux États-Unis, mais l'équipe vivra en permanence du côté, de l'autre côté de la frontière au Mexique. Comment ça va se passer concrètement ? C'est que l'équipe va vivre totalement normalement, va s'entraîner au Mexique pendant sa préparation et pendant sa phase de groupe. Mais à J-2 ou J-1, les joueurs iraniens et le staff iranien prendront un avion direction Los Angeles pour les deux premiers matchs et Seattle pour le troisième et se rendront à J-2, J-1 aux États-Unis. Et en repartant directement après le match. Donc, ils ne resteront que très peu de temps sur le sol américain. Et autre conséquence, si on voit un peu plus loin, si l'Iran se qualifie pour les 16e ou pour les 8e de finale de la compétition, ils joueront du côté du Canada. Donc, ça facilite aussi un peu plus la logistique.
Donc, c'est vrai que ça, c'est une des informations de cette semaine. Alors, c'est au moment où on enregistre ce podcast. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qui peuvent tomber d'ici le début de la compétition. Donc, forcément, on vous tiendra informé sur rmcsport.fr. Comment ça va se passer aussi pour les visas ? Parce que ça, c'est une vraie question. Les joueurs sont, au moment où on parle, en attente de visa pour les États-Unis.
Hein. Exactement. Alors, à l'instant où l'on parle, l'Iran n'a pas obtenu les visas des joueurs pour jouer sur le sol américain. Il y a une négociation qui est en cours entre la FIFA et la Fédération iranienne de football pour accélérer le processus. Il y a quelques jours, ils étaient du côté en Turquie, toujours en stage de préparation. Ils ont réalisé leur demande de visa auprès du consulat américain. Donc, ils sont en attente de la réponse des autorités américaines. Sur le plan, ce que nous dit la FIFA, c'est que sur le plan des joueurs, ça ne va pas poser de problème. C'est surtout l'environnement autour de l'équipe iranienne. Est-ce que tous les visas seront accordés à tout le staff iranien et tous les accompagnants ? Parce qu'on sait qu'une équipe, ce n'est pas seulement l'équipe en tant que telle, les 11 joueurs ou les 22 joueurs qui sont convoqués, mais il y a tout le staff qui est autour et toute l'équipe logistique qui est autour de l'équipe iranienne. On verra si la FIFA accorde l'ensemble des visas. C'est sur une équipe comme l'Iran, c'est un peu plus par exemple sur l'équipe de France, mais sur une équipe comme l'Iran, c'est à peu près une cinquantaine ou une soixantaine de visas qui doivent être accordés pour jouer aux États-Unis.
Des visas avec plusieurs entrées.
Oui, plusieurs entrées.
C'est important pour eux.
C'est un visa modulaire, modulable. Donc c'est pour rentrer aux États-Unis, ressortir des États-Unis, alors que le Mexique, lui, a d'ores et déjà accepté que l'ensemble du staff iranien se présente sur son sol.
Des conditions de préparation évidemment très particulières pour l'Iran. Toi, Arman, quand tu as suivi évidemment la situation géopolitique de ton pays, puisque tu es d'origine iranienne, forcément, à un moment donné, s'est posé la question de la participation de l'Iran à ce mondial sur le sol américain. Est-ce que toi, tu as douté à un moment donné de cette participation ? Est-ce que tu as pensé à un moment que l'Iran n'allait pas participer ?
Non, j'ai pas pensé qu'il se retirait de la Coupe du Monde. Toujours est-il que selon les règles de la FIFA, si une équipe nationale, alors qu'elle est future mondialiste d'une compétition comme la Coupe du Monde, il risquerait d'être interdit de participer
à une future compétition.
Oui, exactement. Par exemple, 2030 ou etc. Mmh. Donc non, je ne pense pas qu'il se retire de la Coupe du Monde. De toute façon. C'était pas prévu qu'il se retire, mais le président de la fédération iranienne a précisé qu'il boycotterait l'événement aux États-Unis et non la Coupe du Monde qu'il avait citée en mars dernier en période de guerre.
Voilà, d'où effectivement cet arrangement sur le camp de base. Il faudra quand même surveiller ces matchs et tu y seras pour RMC, Nicolas.
Après,
à Los Angeles.
C'est toujours aussi un jeu de négociation entre la fédération iranienne. Ouais. Qui, dans son bon droit, met des coups de pression contre la FIFA. La FIFA est très puissante, donc elle peut faire bouger les lignes. Et donc, par exemple, sur les visas, la fédération iranienne met beaucoup de coups de pression à la FIFA pour qu'elle fasse bouger les lignes avec l'administration de Donald Trump.
Il y a la question de la sécurité quand même aussi, puisque quand on dit match d'une sélection, il y a aussi des supporters qui vont certainement venir supporter cette équipe iranienne. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de soutien populaire. Est-ce que là aussi, la FIFA va aider les supporters iraniens à avoir des visas ? Comment ça va se passer ?
Ah non, je pense que sur ça, alors je parle sous ton contrôle, mais je sais qu'il y a une très grande communauté iranienne à Los Angeles. Donc pour les deux matchs qui seront à Los Angeles, l'Iran aura sûrement des soutiens dans le stade, mais de ce côté-là, d'accorder des visas supplémentaires, la FIFA ne pourra pas aller jusque-là. Elle accorde les visas, enfin elle aide à ce qu'on accorde les visas du côté des joueurs et du staff, mais elle n'ira pas jusqu'aux supporters. Donc on verra si l'Iran est beaucoup soutenu du côté de Los Angeles et de Seattle. Avec une forte communauté du côté de Los Angeles, je pense que le stade sera bien rempli pour le côté iranien. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est qu'il faut aussi être en situation légale sur le sol américain, parce qu'il y a aussi la crainte de ICE à la sortie des stades.
Police,
et que d'aller au stade, si on n'est pas en situation régulière sur le territoire américain, mais c'est le cas pour beaucoup de sélections, et qu'à la sortie, on se fasse contrôler par la police de l'immigration américaine et qu'on voit qu'on n'est pas en situation régulière. Donc il y a aussi cette crainte du côté des supporters, même si ICE a répété depuis plusieurs semaines qu'elle n'effectuerait pas de contrôle dans les enceintes de la FIFA, mais ça reste quand même à vérifier.
Alors, bien sûr, on parlera du sportif, hein. Vous restez avec nous dans ce podcast, mais forcément, on voulait aussi vous montrer des images fortes. C'était des images au moment des matchs de préparation pour l'équipe d'Iran en avril dernier contre le Nigeria et le Costa Rica. Et on a vu donc des joueurs de la sélection, au moment de l'hymne national, rendre hommage à des victimes. Alors, à l'époque, c'était les victimes d'une frappe aérienne qui avait touché une école, et on les voit ici tenant un cartable symboliquement. Ça, c'était avant donc le match contre le Nigeria, et puis ensuite on a vu aussi des images avec des photos de jeunes victimes avant le match face au Costa Rica. C'est évidemment des gestes très symboliques, très forts de la part des joueurs de la sélection. On peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi des gestes symboliques lors de ces matchs de Coupe du Monde, même si on sait que la FIFA est très vigilante et qu'elle ne supporte pas qu'il y ait des messages à caractère politique sur les terrains.
Ouais, par exemple, les images avec les cartables ne pourraient pas passer dans une compétition de la FIFA. Il y aurait même une sanction de la part de la FIFA à la suite d'une image comme celle qu'on a pu voir ou avec les cartables. Donc c'est impossible dans une compétition de la FIFA. Après, on est aussi dans un moment qui est très politique, donc dans un moment qui est très regardé. Donc c'est normal aussi que l'Iran puisse se servir de cette compétition pour faire passer des messages. Donc peut-être que autour des entraînements, autour d'événements qui peuvent maintenant être organisées du côté de Tirana au Mexique, peut-être plus facilement que c'était le cas à Tucson dans leur premier camp de base. Peut-être que la Fédération iranienne de football, avec les caméras qui seront braquées sur elle, parce qu'il faut aussi le dire, hein, y a des centaines de journalistes qui vont se rendre à Tirana pour suivre l'équipe iranienne, alors que d'habitude, ce n'est pas peut-être l'équipe que l'on suit le plus en temps normal. Donc voilà, il y aura peut-être des messages qui seront passés, et c'est un moment comme la Coupe du Monde qui peut servir aussi à faire passer des messages, mais sur une compétition comme celle de la FIFA, c'est-à-dire dans un cadre réglementaire, au moment du match, c'est impossible de voir, par exemple, l'image avec les cartables parce que c'est sanctionné par la FIFA.
On précise d'ailleurs que Gianni Infantino s'était rendu sur le centre d'entraînement, voilà, pour voir aussi un des matchs de préparation de l'équipe d'Iran.
Et il y a eu aussi, il y a quelques jours, le sujet du drapeau pré-révolutionnaire qui a été interdit pour la Coupe du Monde dans les enceintes de la FIFA. Alors, la FIFA interdit tous les autres drapeaux qui ne concerne pas les nations participantes. Donc on verra comment ça se passe dans les enceintes de la FIFA. Et il faut aussi signaler que ce drapeau avait déjà été interdit au Qatar en 2022. Donc ce n'est pas non plus une très grande nouveauté, cette interdiction de la FIFA.
Comment, Arman, toi, tu vois tout ce qui se passe autour de la sélection? Est-ce que tu penses que ça peut les souder? On a vu ces images très fortes des joueurs ensemble. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les performances de l'équipe iranienne?
Je pense qu'après après les 40 jours de guerre, le peuple iranien pourrait passer à autre chose et avoir un petit peu de bonheur pendant cette compétition. Je pense que ça pourrait être le
cas. Ça puisse être une parenthèse un peu pour le peuple iranien.
Oui, ça pourrait être fait. Puis après, autour de l'atmosphère, je ne vais pas développer plus que ça. Mais forcément, il y aura des choses qui vont arriver dans les semaines à venir, et j'espère dans la positivité.
Oui, alors avec effectivement des joueurs qui vont avoir cette pression-là aussi de porter symboliquement les espoirs de tout un peuple. D'ailleurs, pour montrer à quel point chaque geste, chaque prise de parole des joueurs iraniens vont être surveillés et peuvent être interprétés, on va parler quand même d'un joueur qui n'est pas dans la liste au moment où on se parle, c'est Sardar Azmoun. Alors certains le connaissent parce qu'il est quand même joué dans des grands clubs européens. L'une des stars de la sélection qui a été écartée de la liste. On dit qu'il a été écarté à cause d'une photo avec l'émir de Dubaï, alors que les relations entre l'Iran et les Émirats sont tendues. C'est un joueur aussi qui avait fait part de mots pro-manifestants il y a quelques années. Donc c'est vrai que Azmoun va manquer cette Coupe du Monde a priori, même si on sait que c'est un joueur quand même qui mériterait sportivement d'être dans la liste. Hein. On est d'accord, Arman?
Oui, on est d'accord, puisque surtout c'est un joueur qui a apporté beaucoup à l'Iran, même malgré hors contexte football. C'est un joueur qui a joué un rôle important dans son leadership autour de Taremi durant les qualifications pour la Coupe du Monde, comme dans les précédentes. Et puis après, les joueurs, ces derniers jours, ils ont demandé que Azmoun devrait intégrer la sélection.
Il y a des cadres, voilà, qui.
Il y a des cadres comme Taremi, Jahan Barch, etc.
Ouais, c'est pas rien.
Après, ça dépendra la décision du sélectionneur pour la liste finale qui aura lieu le 1er juin. Ouais. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais en Iran, tout n'est pas impossible.
Voilà, donc c'est pas impossible de trouver Azmoun. Au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas dans la liste, mais on voulait vous en parler parce que c'est un des symboles, justement, de ce cas très particulier.
Il s'était défendu, il avait dit que ça n'a rien à voir avec la politique, il avait dit que c'était un choix sportif.
Voilà. Évidemment. On va te remercier Nicolas Pelletier qui suivra donc le destin de cette équipe iranienne lors de la Coupe du Monde pour RMC. Merci beaucoup, et on va continuer de parler de l'Iran et du sportif avec notre invité dans After Coupe du Monde. Dans ce podcast After Coupe du Monde spécial Iran, on est avec Arman du compte Team Meli Actu. On va parler avec toi du sportif parce qu'il y a des très bons joueurs dans cette sélection. Avant d'aller sur cette sélection d'aujourd'hui, on va faire un petit tour en arrière avec l'histoire de l'Iran à la Coupe du Monde. Un petit rappel historique, ça sera la 7e participation de l'Iran à la Coupe du Monde. Il y a eu 1978, 1998, 2006, 2014, 2018... et 2022. Donc les quatre dernières Coupes du Monde depuis 2014, l'Iran y était. Le meilleur résultat, bah finalement, ils n'ont jamais réussi à passer les poules. C'est peut-être l'édition 2018, on va en reparler avec toi. En tout cas, c'est une équipe à la Coupe du Monde qui a remporté trois matchs. Trois matchs sur 18. Trois victoires, dont une très symbolique. Alors, tu n'étais pas né, Arman, je le sais. Moi, je m'en souviens très bien. La première victoire de l'Iran à la Coupe du Monde, c'était en 98 à Lyon. Un match face aux États-Unis, donc évidemment très fort en symbole également à l'époque. Les deux équipes qui avaient d'ailleurs posé ensemble avant la rencontre. Je sais que tu n'as pas vécu ce match directement, mais on t'en a parlé, toi, dans ta famille, hein, de ce match, de ce États-Unis-Iran.
Ouais, surtout mon grand-père qui me parle sans cesse de Iran-États-Unis de 98, comme la plupart des membres de ma famille, puisque surtout côté maternel, la plupart, on parle de foot sans cesse. On nous parlait que de ce Iran-États-Unis qui a laissé des émotions, notamment les buts de Khodadad Azizi et Mahdevika, Ali Dahi, etc., des légendes du football. Et puis voilà, ça reste un moment fort, ouais, de la Coupe du Monde, même si je ne l'ai pas vécu, c'est dommage. Mais c'est... Voilà,
bah, ça reste voilà, un symbole, évidemment. En plus, donc, première victoire, on le disait, de l'Iran à la Coupe du Monde. Il y en a eu deux autres, en 2018 et en 2022. Et 2018, parlons un petit peu de cette compétition, parce que Carlos Queiroz était le sélectionneur, tout comme en 2022. Mais 2018, l'Iran était vraiment pas loin de passer le premier tour. Il y a eu des très bons résultats, que ce soit contre le Portugal, un match nul, une victoire contre le Maroc. Avec 4 points, il n'était pas loin d'être, de passer ce premier tour, hein.
Ouais, on n'était vraiment pas loin et c'était un très très grand moment pour la sélection iranienne en 2018, surtout contre le Maroc où c'était vraiment une émotion forte, puisque c'était la première fois en 20 ans que l'Iran a gagné un match de Coupe du Monde. Et contre l'Espagne, on a fait un grand match, mais j'en garde une déception, puisqu'il y a eu le but de Saïd Ezatoulaï qui a été refusé à cause de la VAR. Et aussi contre le Portugal, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que Bayram Vand a stoppé le pénalty de Cristiano.
C'était un grand match.
Ah ouais, c'était un grand match, mais après c'était...
Un match marquant, ouais.
C'était une déception parce qu'il y a eu l'action du but du 2-1 raté de Taremi dans les arrêts de jeu. On était à saint.
On était vraiment à saint. On sent, Arman, encore que effectivement tu regrettes ces moments-là, mais peut-être que ça va permettre à cette équipe d'Iran aujourd'hui, avec cette expérience emmagasinée, de passer justement en 16e de finale dans ce groupe, justement où l'on voit donc la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Est-ce que pour toi, cette équipe iranienne doit avoir pour objectif, malgré le contexte pesant, on l'a dit, de passer ce premier tour enfin en Coupe du Monde? Est-ce qu'elle le doit? Est-ce qu'elle en a les moyens, selon toi?
Tout est possible, surtout que ça reste un groupe ouvert, même si, comme on dit, le football, ce n'est pas une science exacte, puisque ça ne garantit en rien que l'Iran puisse finir deuxième du groupe, voire même une troisième meilleure place, puisque on sait que la Nouvelle-Zélande, c'est pas...
Le premier match sera important contre la Nouvelle-Zélande.
Ouais, c'est important, surtout que c'est considéré comme une finale. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe vraiment pas sous-estimée, notamment Chris Wood, l'attaquant de Nottingham Forest. Et la Belgique, même si ce n'est plus la même équipe de Belgique de 2018, mais ça reste quand même une grande nation du football européen. Ouais. Et l'Égypte, bah... on le présente plus, c'est l'une des meilleures sélections africaines avec Mohamed Salah, Omar Mahmouche, etc. Donc oui, c'est un groupe très ouvert, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Exactement. Arman Samadi du compte Timeli, on va parler maintenant des individualités. On va commencer forcément par le sélectionneur Amir Khalenoï, qui est donc sélectionneur depuis mars 2023, 62 ans. Il avait déjà été sélectionneur en 2006-2007. C'est un entraîneur connu en Iran parce que c'est tout simplement l'un des plus titrés. Il a remporté 5 fois le championnat iranien avec des équipes du championnat. Donc c'est vrai que nous, on ne le connaît pas ici en Europe, mais en Iran, il est très connu. Il n'a pas l'expérience d'une grande compétition. Malgré tout, voilà, il est quand même respecté au pays, j'imagine, de par son passé dans les clubs iraniens.
Oui, Amir Ghanelhoui, c'est un entraîneur qui est très très respecté en Iran, même si voilà, il y a eu des hauts et des bas. Mais Ghanelhoui a remporté des titres avec Esterlol, Trabzonspor et Sepahan. Avec la sélection, c'est vrai qu'il n'a pas eu l'expérience, mais voilà, c'est une première pour lui de participer à une grande compétition comme la Coupe du Monde. C'est un entraîneur qui est pragmatique, puisque tactiquement, il joue parfois offensif, mais un petit peu défensif.
Ah, il s'adapte à l'adversaire beaucoup ?
Ouais, il s'adapte, mais après, bon, voilà, bon, ses choix font un peu débat, puisqu'il sélectionne des joueurs plus expérimentés, mais c'est le but de la stabilité du groupe, puisque pour aller en Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs d'expérience, même si pour la plupart, ils sont en fin de cycle. C'est important quand même de garder les joueurs d'expérience plutôt que sélectionner des joueurs qui n'ont jamais vécu une compétition comme la Coupe du Monde. Mais voilà, ça reste quand même un entraîneur très respecté en Iran.
Ouais, justement, tu parlais de joueurs expérimentés. On va parler celui qui aura le brassard, je pense, pendant cette compétition, Mehdi Taremi, l'un des plus célèbres, le buteur de cette sélection. Pour ceux qui l'ont vu jouer à Porto, c'est quand même un grand joueur, un grand attaquant qui aujourd'hui est à l'Olympiakos, qui en sélection est le deuxième meilleur buteur, avec d'ailleurs Azmoun, avec 57 buts marqués actuellement, 102 matchs. Son passage à l'Inter n'a pas vraiment été une réussite. Il a 33 ans désormais. Mais est-ce que ça reste, comme tu le disais, il est peut-être un peu en déclin par rapport à ce qu'il a pu montrer par le passé, mais est-ce que ça reste l'homme de base, le joueur le plus important de la sélection, Taremi ?
Ah bah Taremi, on le présente plus, ça reste un joueur très très important dans l'effectif iranien. Ça reste pour moi l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football iranien. Et puis, ça reste. C'est un joueur qui a montré pendant plusieurs années son rôle important, notamment son leadership, son rôle en tant que capitaine.
Oui, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans le vestiaire. C'est quelqu'un.
Voilà, exactement. Ouais. C'est quelqu'un qui est très, très fort. Et puis, ce sera sa troisième participation en Coupe du Monde. Ouais, et vrai. Il connaît très bien la compétition, la pression. Donc, ça va lui...
Il n'y a pas de débat autour de lui.
Hein. Non, Taremi, non, pas de débat autour de lui.
Quand on fait le 11, c'est voilà, le premier nom qu'on met. Le brassard, il n'y a pas de débat non plus. C'est Mehdi Taremi et c'est logique. Oui,
c'est logique, puisque c'est avant Taremi, c'était le vice-capitaine. Ouais. Donc, voilà. Donc, bon, ça reste pour moi un très, très grand joueur.
Une grande Coupe du Monde passera par un grand Taremi.
Taremi, ouais. Je l'espère.
Avec lui d'ailleurs dans cet effectif, dans ce 11, j'ai remarqué qu'il y avait un ancien qu'on a vu en France évoluer, c'est Rodos qui joue aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. 2 buts seulement en 65 sélections. Alors, il ne faut pas se fier forcément à cette fiche de statistiques qui n'est pas énorme pour un joueur offensif, mais lui, il est placé en position de meneur de jeu, hein, c'est ça, dans l'effectif, dans le 11. Ça. Rodos qui est passé par Amiens, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Ouais. Un mot sur Rodos ?
Rodos, c'est un très très grand joueur.
Pour 33 ans aussi. Hein.
En Iran, c'est un joueur qui est très très intelligent tactiquement, puisqu'il apporte une stabilité au milieu de terrain avec Azatollahi et Nourafkan, si je ne me trompe pas. Après, c'est un joueur qui apporte de la stabilité au milieu de terrain, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec l'adrénaline offensif. Il peut jouer parfois en ailier et en numéro 10, et parfois même au milieu sentinelle, comme Kairos avait placé en 2018.
Ah oui, donc un joueur qui est multitâche, quoi. On peut le mettre voilà, un peu partout au milieu de terrain et même offensivement. Alors maintenant, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y en a certains qui vont suivre cette sélection iranienne pendant le mondial. Et comme on est avec toi, Arman, et que tu es un spécialiste, tu suis la sélection et les joueurs iraniens régulièrement. Est-ce qu'il y a un joueur sur lequel il faut s'attarder un peu plus que les autres? Est-ce qu'il y a un joueur, toi, qui te plaît? Tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent, bah, il faut le suivre, lui, pendant le mondial, s'il y en a un à citer.
Il y a un joueur que... Enfin, il y a deux ou un, trois joueurs.
Bah alors, parlons... On va y aller d'abord. le premier, pour toi.
Le premier, c'est Mohamed Mohebi.
Mohebi,
ok. Il est gauche à Rostov.
Ouais.
C'est un joueur qui apporte... c'est un joueur qui a joué un rôle majeur avec Taremi pendant les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Et un joueur qui joue ailier droit, ailier gauche, pardon. Et il y a aussi Mehdi Graidi, l'attaquant de l'ailier droit de l'ailier gauche de d'Al Nassr aux Émirats Arabes Unis, et qui a lui aussi joué un rôle très important avec Mohebi, Taremi pendant la qualification à la Coupe du Monde. Et puis, c'est deux joueurs qui à suivre pendant ce mondial.
Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un trio offensif. On a parlé de Taremi, mais qui pourrait être encadré par donc Mohebi et Rayedi. Rayedi qui fait 1m66. Hein. C'est vraiment un attaquant de poche. Hein.
Ouais, c'est...
Mais avec des qualités techniques sans doute au-dessus de la moyenne et qui lui permettent d'être dangereux. Il a marqué 8 buts en 27 sélections, 27 ans, Rayedi. Mohebi, lui, c'est 13 buts en 34 sélections. Et il a aussi 27 temps, c'est des joueurs qui arrivent à maturité aussi. Hein. Quand on voit l'âge, voilà, c'est pour ça que l'Iran va beaucoup compter sur eux, avec donc ce trio d'attaque là, qui peut être redoutable, hein, pour les défenses adverses. Hein.
Un trio d'attaque que moi j'appelle personnellement le trio de Bouchehri.
Ah.
Puisque Bouchehri, c'est une ville au sud de l'Iran. Ouais. Et ces trois joueurs-là, ils sont nés à Bouchehri, donc ils sont du sud.
Ok, bah donc c'est parfait. Voilà, si vous regardez l'Iran jouer, attardez-vous sur ce trio d'attaque qui peut être évidemment un atout pour les Iraniens. On va donner aussi une information sur un autre joueur quand même qui peut surprendre, parce que certains l'ont vu et ne pensaient pas qu'il était iranien. C'est Denis Ekert Ayansa. Alors ça, c'est le nom que l'on connaît du joueur de Standard de Liège, 29 ans, qui compte d'ailleurs une sélection en équipe espoir d'Allemagne. Il est attaquant. Mais sur le maillot, il y aura marqué Denis Dargaï. On est d'accord ?
Darahi,
parce que c'est son nom depuis qu'il a été naturalisé iranien en mai dernier. L'actrice iranienne Anaïta Darahi est sa tante, et donc il a obtenu la citoyenneté iranienne et il a pu être appelé par le sélectionneur. Et il n'a toujours pas joué avec l'Iran, hein, on est d'accord pour l'instant.
Ouais, Denis Ekert a intégré la sélection en mars, mais ça n'a pas encore été approuvé par la FIFA puisqu'il y a eu des dossiers en cours. Et jusqu'à maintenant, bah, la FIFA a enfin autorisé Denis Ekert de jouer pour l'Iran. Et pour ma part, c'est un joueur qui manque dans l'attaque, puisqu'il joue dans le même positionnement avec Azmoun en pointe. Donc c'est un joueur qui sera très intéressant à suivre durant les matchs de préparation et aussi pour la Coupe du Monde. Donc voilà, Denis Ekert, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite la bienvenue à la sélection.
Bah, si il regarde After Coupe du Monde, et on le souhaite, en tout cas, on voulait faire un focus évidemment sur lui. On va te remercier, Arman Samadi. Donc je rappelle, Team Melli Actu.
Oui.
Actu avec un S, c'est ça ? Non, pas de S.
Non, Team Melli,
pas de S. Voilà, pour retrouver ça sur Instagram, sur le compte X aussi. Toutes les infos vraiment en temps réel. Tu vas te lever tôt ou coucher tard, je ne sais pas, pour regarder certains matchs de l'Iran en pleine nuit.
Je sais pas, ça dépend.
Mais en tant que fan et supporter, t'es obligé.
Ouais, je suis obligé, puisque c'est important pour nous, mais après, voilà, après ça dépend de mon emploi du temps, donc on verra ce qui va se passer.
Bon, en tout cas, vous pourrez écouter RMC pour suivre tous les matchs de l'Iran. Vous le savez, il y a aussi une radio digitale mise en place par RMC pour ne rien rater de toutes les rencontres de cette Coupe du Monde, même en pleine nuit. Merci encore mille fois, Arman, d'être
merci à toi,
venu
François.
Dans cette After Coupe du Monde, à retrouver en podcast et en vidéo, vous l'avez compris, sur YouTube et sur After Télé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter les autres épisodes concernant les 47 autres équipes de cette Coupe du Monde sur l'appli RMC. En attendant, eh bien, on vous souhaite une très très belle Coupe du Monde avec RMC. À bientôt.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.